Bah mais moi, après ma vasectomie, on m'a dit que j'aurais plus d'enfants, tu vois, je l'ai fait exprès pour ça. Ouais, mais quand je suis rentré chez moi, ils étaient toujours là. Hein. Salut à tous, bienvenue dans votre nouveau feuilleton 12 par sec. L'émission où on parle de l'univers comme si c'était un mauvais scénario de blockbusters. Trop de vide, pas assez de personnages, un scénario un peu pourri parfois, hein. Les lois de la physique qui sont chiantes parce qu'on peut pas faire grand chose, et les explosions qui durent toujours moins longtemps que prévu. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple mais qui fout un peu le vertige. C'est une question que je me suis souvent posée à moi-même, et du coup je vais y répondre tout seul. Pourquoi la Terre est la seule planète connue avec plein de paysages différents? Eh oui, parce que nous, on a tout. Des océans, des montagnes, des forêts, des plages, des déserts, des volcans, des plaines, des villes, bordel! Des villes! Alors que sur toutes les autres planètes, bah t'as systématiquement un seul paysage. Sur Mars, par exemple, bah t'as un seul décor, c'est Mad Max Fury Road, mais sans les bagnoles, sans la musique, et sans Charlize Theron et son moignon tout dégueulasse là. Ah! T'approches pas de moi, toi! Pourquoi que la Terre, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, on peut voir de tout, alors que les autres planètes, bah finalement, c'est comme dans Dune, y'a que du désert, ou comme dans d'autres films encore, avec d'autres décors, mais... J'ai pas les titres. Ce qui est sûr, c'est que quand viendra l'époque où on pourra faire du tourisme spatial dans le système solaire, bah faudra bien choisir sa destination, parce qu'une fois sur place, t'auras droit qu'à un seul type de paysage et tu pourras pas en changer. Allez, justement, on va aller voir ça.
Tout le monde est prêt? Alors en avant!
Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous pourrez peut-être gagner un merveilleux cadeau contre remboursement. Alors, avant de commencer, accordez-moi s'il vous plaît 2 minutes de votre temps pour vous reparler une nouvelle fois des merveilleux télescopes d'Unistellar. Je ne me lasserai jamais de vous en parler, car je ne me lasserai jamais de les utiliser. Unistellar est une entreprise française, marseillaise, dans laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans. Et grâce à eux, j'ai découvert une toute nouvelle façon d'observer le ciel. Une façon simple, fun, immersive et facile à partager. Chez Unistellar, on veut que l'astronomie se soit aussi simple à apprendre que merveilleux à regarder. On veut allier la facilité à la beauté. Et pour ce faire, ils ont conçu toute une gamme de télescopes intelligents, les Iviscopes et les Odyssées, qui s'installent en 3 minutes, se règlent en 2 et vous montrent les objets de ouf en pas beaucoup plus de temps. Pour réaliser ce genre d'image, les télescopes font un stacking rapide, c'est-à-dire qu'ils prennent une image toutes les 4 secondes, qu'ils empilent au fur et à mesure, pour gagner en luminosité, en détail et en couleur, ce qui fait que ce sont des télescopes qui peuvent capter beaucoup plus d'objets en une seule soirée que tous les modèles concurrents. En seulement quelques minutes, vous pourrez voir des amas d'étoiles comme ça, des nébuleuses comme ça, et des galaxies comme ça. Et pour l'avoir déjà utilisé avec des dizaines de personnes différentes, je peux vous jurer que vous et toutes les personnes qui regarderont dans le télescope avec vous pousseront des waouh de surprise tellement ils vont kiffer ce qu'ils vont voir. Ah, ils seront là,
wow.
Parce que s'il y a bien un truc que Unistellar a réussi avec ses télescopes, en plus de faire des superbes images, c'est d'en faire des instruments qui créent des expériences à vivre ensemble. Parce que regarder le ciel tout seul, c'est déjà génial, mais le faire à plusieurs en soirée en parlant de tout ce qu'on voit, c'est encore mieux. Je vous le jure, ça, je vous le signe, j'en ai fait des dizaines de soirées astro avec ça. Et à chaque fois, ça a été un succès. En fait, le kiff, c'est que tout le monde peut regarder dans l'oculaire à tour de rôle, évidemment, mais en même temps, jusqu'à 10 personnes peuvent se connecter à l'application simultanément pour voir en direct ce que le télescope est en train d'observer. Ensuite, vous enregistrez l'image et vous la partagez en 2 clics sur vos réseaux et c'est génial. Je pourrais vous parler de tout ce que fait l'Iviscope en détail, de l'application super intuitive qui vous aide à trouver les meilleurs objets. Je pourrais vous parler de toute la partie science participative où vous pouvez contribuer à la découverte d'astéroïdes et même d'exoplanètes.
Arrête, tu déconnes.
Sans bec, il y a des utilisateurs qui l'ont déjà fait. Mais comme j'ai dit que je ne vous prendrai que 2 minutes de votre temps, je préfère vous renvoyer vers les 2 vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne dédiées au télescope d'Unistellar. J'explique tout sur tout, allez les voir si vous voulez tout savoir. Et en ce doux mois de novembre 2025, Unistellar nous sort tout simplement la plus grosse promotion de l'année sur tous les télescopes et les accessoires du site. Il y a des super réductions, allez donc me checker ça tout de suite! Pas besoin de code promo, la réduction est directement appliquée sur le site et le lien est en description, bien sûr. Je connais très bien ces produits, je les utilise depuis 5 ans, je suis absolument converti et je kiffe toujours autant. Parce que l'Iviscope, c'est pas seulement un instrument scientifique, c'est une expérience qui rassemble, qui crée du lien et qui fait vibrer tout le monde autour de la beauté du ciel. Avec le télescope Unistellar, vous êtes à quelques minutes de l'univers. Je me marre, mais c'est beau. Allez, merci beaucoup Unistellar. Bien, mes amis, transportons-nous dans le futur, voulez-vous? En l'an 2458, et imaginons qu'il soit tout à fait possible d'aller faire du tourisme spatial dans le système solaire pour aller découvrir les paysages merveilleux de ces planètes et de leurs satellites. Alors, vous voulez aller où, monsieur?
Vous avez quoi?
On a toutes les planètes du système solaire, hein, déjà. Hein. Vous voulez commencer par laquelle?
Écoutez, par la première.
Tout à fait, tout à fait. Alors donc, on a Mercure, donc ça ressemble à ça.
C'est super.
Et c'est comme ça partout?
C'est comme ça partout.
Bah c'est nul.
Oui, très.
Mais il fait bon au moins?
Non, bah non, y a pas d'atmosphère.
Et ça fait quoi ça? Bah ça fait moins 180 degrés à l'ombre et 430 au soleil.
Ah oui?
Non, oui, non, bah non alors.
Sinon vous avez quoi d'autre? Vous avez Vénus.
Ah oui, Vénus, c'est bien ça?
C'est pas mal, c'est pas mal. Ça ressemble à ça, Vénus. Voilà.
Ok, et c'est comme ça partout?
C'est comme ça partout, oui.
Ouais. C'est pas... Et la météo? 470 degrés. Et c'est comme ça partout?
Oui.
Ok, bon, bah...
Sinon, je peux vous proposer Mars, hein?
Ah, Mars, oui, 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 c'est comment, Mars?
C'est comme ça.
Ouais. Moi, j'aime bien. Faut aimer.
Oui.
Et
C'est comme ça partout, oui, oui, oui.
Oui.
Et il fait entre moins 100 degrés et plus 20 degrés à l'équateur l'été, hein?
Ah, ça, c'est bien, ça. Un peu comme sur Terre, en fait.
Exactement. Je vous réserve un billet?
Ah, non, 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 surtout pas, non, non, non. Y a pas autre chose, non?
Bah, si, après, vous avez plein de trucs. Vous pouvez aller sur Europe, par exemple.
Mais moi, je suis déjà en Europe.
Oh, putain, vous allez arrêter avec cette blague de merde.
Dis donc, eh oh, le client est roi, monsieur.
Et le vendeur est empereur. Europe, c'est un satellite de Jupiter.
Ah, ok. Et c'est bien, ça?
Vous aimez le patin à glace?
Pourquoi faire?
Est-ce que vous aimez le patin à glace?
Ah, non, je m'en fous.
Bon, bah, vous avez rien à foutre là-bas, alors, parce que c'est que de la banquise.
Putain, mais c'est nul, en fait.
Bah, on n'y peut rien, nous, c'est comme ça, et on peut pas changer le truc, hein.
Et moi, j'avais regardé pour Titan aussi.
Oui, c'est bien.
Ah, c'est vrai, c'est bien?
Ah, bah non, c'est nul.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à ça, voilà. C'est assez cool, hein. C'est le seul endroit qu'on a trouvé pour l'instant où il y a vraiment du liquide qui coule à la surface, hein.
Ah, ouais, il y a des lacs et des rivières, hein. On peut se baigner?
Bah, c'est-à-dire, c'est du mercure liquide et il fait moins 180 degrés.
Ouais.
Et c'est comme ça partout, oui, oui, oui.
Bon, mais en fait, le mieux, c'est encore de rester sur Terre, quoi.
C'est un peu ça, oui.
On a tout ici, pas la peine de partir ailleurs.
Bah non, c'est pas la peine, non. Donc voilà, restez chez vous et faites pas chier. Et non, c'est pas la peine de partir à des millions ou des milliards de kilomètres. Parce qu'au final, il y a quand même pas grand-chose à voir. Les planètes et satellites du système solaire, et même en général toutes les exoplanètes qu'on a trouvées, ont des paysages plus uniformes les uns que les autres. Et moi, l'uniformité, ça me fait chier. Voilà, je vous le dis, c'est tout. À bon entendeur. Et si jamais vous me regardez en classe, hein, parce que je sais que parfois, il y a des profs que je ne sais quelle mouche a piqué qui décide de montrer mes vidéos à leurs élèves. Message aux élèves, là. Désolé pour ma vulgarité. Hein, voilà. Ne faites pas comme moi. Soyez pire.
Ah, salaud.
Non, mais je déconne, c'est vrai. Non, non, non. Il faut passer des bons messages, donc voilà. N'achetez pas de drogue. Devenez une star et on vous en donnera gratuitement. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Chaque fois qu'on nous parle d'une planète autre que la nôtre, c'est toujours pour nous montrer un seul type de paysage. Glacé, désertique, rocheux, poussiéreux et désolé. Ha, misère. On se demande bien à quoi ça sert de vouloir aller là-bas. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au cinéma ou même en science-fiction, ils se sont beaucoup inspirés de ça. Prenez Star Wars, par exemple. Ouais, j'ai choisi complètement au hasard. Bah oui, mais en même temps, j'allais pas choisir les Tuche 4. Hein. On voit des dizaines de planètes différentes dans la saga et elles n'ont systématiquement qu'un seul type de paysage. Il y a des planètes déserts, il y a des planètes de flotte, les planètes volcaniques, les planètes forêts, les planètes villes. Alors, on nous montre pas toute la surface de la planète à chaque fois, mais vu de l'espace, ça a quand même l'air d'être partout pareil. Hein. D'ailleurs, j'ai fait deux vidéos sur les planètes de Star Wars. Elles datent d'il y a 6 ans, mais elles sont toujours géniales. Allez les voir, c'est les meilleures vidéos de la chaîne. Donc au final, on est quand même pas mal sur notre bonne vieille Terre. Avec ses océans, ses plages, ses déserts, ses lacs, ses glaciers, ses volcans, ses montagnes et forêts, et ses îles au trésor que je t'aime. Non mais c'est vrai, la Terre, c'est Breath of the Wild en vrai. Attends, nous on a le parc de Yosemite et les chutes du Niagara aux États-Unis, l'Inselberg d'Uluru en Australie, les plaines du Serengeti en Tanzanie, le lac Baïkal en Russie, la cordillère des Andes en Amérique du Sud, le delta de l'Okavango au Botswana, le Courtepaille de Rosny-sur-Bois en région parisienne, et tous ces endroits incroyables classés au patrimoine mondial de mon cul. Mais alors pourquoi? Pourquoi qu'on est les seuls à avoir autant de diversité à notre surface? Alors évidemment, il y a probablement dans l'univers des milliards de planètes qui sont comme nous et qui ont une grande diversité de paysage, sauf que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a jamais trouvé aucune. La première raison, c'est très simple, la Terre est une planète vivante. Alors, pas vivant en mode il y a des trucs qui respirent dessus. Vivante géologiquement. Sous nos pieds, là c'est le Mordor en fusion. On a un noyau en métal liquide, c'est du fer et du nickel en fusion, qui chauffe à entre 4000 et 6000 degrés. Et il est pas petit, hein, il représente 17% du volume de la Terre et 33% de sa masse. Et cette chaleur crée des mouvements dans le manteau, donc dans les couches supérieures. Il y a tout qui bouge, qui remonte, qui redescend. On appelle ça la convection mantellique, et ça bouge tellement là-dessous que, à la surface, bah, les continents ils dansent la lambada depuis 4 milliards d'années. Oui, bah n'empêche que tout ça, d'après ce que nous on a pu observer, bah c'est assez rare. Ah bah il suffit de regarder les autres planètes, hein. Mars, bah voilà, elle est morte depuis longtemps, comme le talent de pH. Enfin, non, elle est pas complètement morte. Apparemment, il y a 1 million d'années, il y a eu une très grosse période volcanique, mais bon, voilà, depuis il n'y a plus jamais rien eu. Mars n'est pas soumise à la tectonique des plaques, donc en gros, bah il se passe rien. On se fait chier, voilà. On se croirait dans la saison 4 de Stranger Things. Ah, j'espère que la saison finale va être meilleure. Je m'attends à à rien, mais je sens quand même que je vais être déçu. Après, il y a quoi? Vénus? Tu parles, ouais. Il fait tellement chaud que sa surface s'est complètement refondue tous les 500 millions d'années. Et en plus, Vénus, globalement, c'est une planète qui est assez peu accidentée, avec un relief assez plat. Environ 60% de sa surface ne dépasse pas les 500 mètres par rapport au niveau moyen.
Tu veux dire le niveau de la mer?
Eh non, il n'y a pas de niveau de la mer sur Vénus.
Pourquoi?
Bah peut-être parce qu'il n'y a pas la mer, je sais pas, il y a peut-être un rapport, hein. Cogno, bah. Je peux pas travailler avec des abrutis pareils. Checkies, tu nous regardes. La Lune, c'est un caillou mort tout moche qui orbite à côté de nous, sans atmosphère. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont un fœtus mort collé au crâne, là, tu sais, comme le personnage dans South Park, là.
C'est dégueulasse.
Putain, sans déconner, les mecs ont quand même inventé un personnage comme ça dans la série, quoi. Est-ce que South Park, c'est pas la meilleure série du monde? Eh bah la Lune, pour la Terre, c'est un peu pareil, tu. C'est un peu un fœtus mort qui est collé à nous. Enfin, elle est à 360 000 km de nous, à peu près, je crois. Entre 360 000 et 380
Ah merci, bravo la précision.
Ah mais elle bouge, j'y peux rien moi. Et comme il n'y a pas ou extrêmement peu d'activité géologique, bah la surface a pas changé depuis des millions d'années et elle changera plus maintenant. Ah bah c'est trop tard. Quant aux autres planètes, bah déjà c'est du gaz, donc bon bah là-bas aussi, hein, c'est partout pareil. Hein. Enfin à peu près. Hein. Les nuages ils peuvent avoir des couleurs différentes, tu vois, mais bon sur Jupiter ça reste quand même plutôt couleur chiasse. Et sur Uranus et Neptune, bah là, si vous y allez, faut aimer le bleu. Et je parle pas de la couleur de l'eau, hein. Là aussi c'est du gaz. Hydrogène, hélium, méthane, ammoniac, tous ces trucs-là. Bah je vous explique. Et encore plus loin, vous avez Pluton et toutes les petites planètes pourries, là. Et ça, c'est pareil, totalement inintéressant. Non mais voilà la gueule de la surface, quoi, tout est glacé. C'est du méthane et du givre d'azote. Et en plus, c'est tout plat. Alors bon, il y a quand même quelques montagnes de 2 à 3000 mètres d'altitude, tu vois. Super, ça nous fait une belle jambe. Vous voulez aller voir là-bas, non? On met combien de temps pour y aller? À peu près 10 ans. Ok, bah partez, on vous rejoint après. Non, en fait, ce qui fait que c'est différent chez nous, c'est parce que la Terre, elle, au moins, elle a gardé son moteur allumé. Volcans, montagnes et tremblements de terre. Et tout ça, mes copains, c'est à cause d'une chose, la tectonique des plaques. C'est la base de tout. Ça découpe la croûte terrestre et ça fait bouger les continents. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Si vous voulez, il y a trois types de situations. Il y a d'abord les zones de convergence, c'est-à-dire quand deux plaques se rentrent dedans, ou plus précisément quand il y en a une qui passe sous l'autre. Bah ça fait des montagnes, les gars. Ça fait des volcans. Hey, l'Himalaya, ça a été créé comment, à votre avis? Les élèves dans la classe, là, alors? Oui, bah pas tous en même temps. Hein. S'il y en a pas un qui répond, le prof, je l'autorise à coller tout le monde, là. Vous me copierez 200 fois, les étoiles, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Bah l'Himalaya, c'est le résultat de la collision de la plaque indienne et de la plaque eurasienne. Il y a 80 millions d'années, l'Inde, c'était une île dans l'océan Indien. Et l'Inde, elle a foncé tout droit sur l'Asie à la vitesse d'un escargot en déambulateur. Ah bah oui, c'est très long, ça prend des millions d'années. Et quand elle est arrivée devant la plaque eurasienne, vous savez par où elle est passée?
Oui, par en dessous.
Exactement, par en dessous. Et ça, ça a soulevé la Terre et ça a fait des montagnes. Et voilà, c'est QFD. C'est pas compliqué, hein, vous avez vu. En fait, faire des montagnes, c'est facile. Ensuite, vous avez des zones de divergence, c'est quand les plaques s'écartent et ça, ça fait des océans. Prenez par exemple la dorsale médio-atlantique qui part du sud du pôle Nord et qui arrive au nord du pôle Sud. C'est bon, tout le monde suit, là, vous avez compris? Vous voulez que je réexplique bien tout en détail?
On enchaîne.
Bah quand les plaques s'écartent, le manteau qui est en dessous remonte sous forme de magma. Ce magma, cette roche un peu liquide, va refroidir au contact de l'eau et va créer une nouvelle croûte océanique. Et ça, ça crée des chaînes de montagnes sous-marines et les crêtes les plus élevées forment des îles comme l'Islande par exemple. Et pareil, ça crée des volcans aussi qui recrachent de la lave et qui ajoutent des couches de lave et qui rajoutent des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et qui peuvent parfois même agrandir les terres et les îles, comme sur l'île de la Réunion par exemple. Le Piton de la Fournaise, on avait entendu parler de celui-là?
Oui.
Bah il me semble quand même, oui, c'est un des volcans les plus actifs de la planète. À chaque éruption, une nouvelle couche de lave s'accumule à la surface et refroidit en roche, et ça, ça transforme les reliefs. Et c'est comme ça que les volcans s'agrandissent au fur du temps. Au fur du temps, oui. C'est une nouvelle expression que je viens d'inventer, voilà, mais utilisez-la, hein, vous gênez pas. Ah lui, il s'arrange pas au fur du temps. Excusez-moi, je me fais rire tout seul. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des nouvelles îles volcaniques qui émergent de l'océan. On estime quand même que 80% de la surface terrestre serait issue d'éruptions volcaniques. Ah ben je m'excuse, mais c'est quand même pas de la merde. Et enfin, la troisième situation, c'est ce qu'on appelle les zones de coulissage, où il y a deux plaques qui glissent l'une contre l'autre. Et ça, ça fait des tremblements de terre de malade, mais ça ne crée ni de montagne ni d'océan. Comme par exemple la faille de San Andreas en Californie. Je conseille d'ailleurs l'excellent documentaire San Andreas, avec Dwayne Johnson, hein. C'est produit par Arte, c'est super réaliste. Et voilà. Et bah tous ces trucs-là, ça change les reliefs de la Terre, et c'est le seul monde du système solaire qui a des décors qui se renouvellent d'eux-mêmes. Alors, je sais qu'il peut y avoir certaines lunes de Saturne ou de Jupiter qui ont une grosse activité géologique aussi. Je sais pas exactement si la tectonique des plaques fonctionne pareil, mais on va dire que non, parce que moi ça m'arrange. De toute façon, si je me gourre, je ferai un erratum dans la prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans tout ça, la Terre, elle serait plate comme Margot Robbie.
Ou comme Zendaya.
On ne touche pas à Zendaya! Zendaya.
Elle est parfaite.
Reprenons Mars, par exemple, une minute. Bon, bah Mars, elle a essayé, tu vois. Elle a quand même réussi à sortir un volcan de 22 km d'eau, hein. L'Olympus Mons. C'est juste le record du système solaire. Sauf que, si vous voulez, c'est un petit peu comme PH qui a fait une seule blague marrante de toute sa vie, et après, il a plus jamais rien fait d'autre. Et bah Mars, c'est pareil, elle a juste fait ça, puis après, bah, elle s'est refroidie, son noyau s'est endormi, et après, rideau. Alors, il y a bien quelques zones avec un peu de relief, voilà, tout n'est pas plat, c'est pas une grande plaine. Mais par contre, tout est désert. Pas un troquet, pas une mobilette, rien. La zone. Et en plus, il fait très froid, il y a pas d'air. Et nous, on veut aller là-bas. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Peut-on vivre sur Mars ?» Allez la voir, c'est la meilleure vidéo de la chaîne. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que même si une planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire la zone où il fait ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau puisse subsister à l'état liquide, ce qui n'est a priori pas le cas de Mars, mais qui se trouve quand même dans la zone habitable, bah s'il y a aucune activité géologique, bah le paysage, il changera jamais. Et c'est ça le secret, avoir un moteur interne toujours actif. Ensuite, il y a l'eau. Et l'eau, mesdames et messieurs, écoutez bien cette petite métaphore. Faut être un tout petit peu connaisseur et cinéphile pour la comprendre. L'eau sur Terre, c'est la Michel Gondry de la géologie. Elle sculpte, elle transforme, elle façonne, elle défigure, elle déforme, elle remanie, elle s'adapte, elle renouvelle sans arrêt le paysage. Comme Michel Gondry qui fait toujours n'importe quoi dans ses films, mais ça a toujours un peu de gueule quand même. L'eau, elle rend tout plus poétique. Elle arrive toujours à trouver un chemin. Car l'eau, c'est comme la religion, ça prend toujours le chemin le plus facile. Sur Terre, l'eau est partout. Liquide dans les océans, les mers, les fleuves et les rivières. Solide dans les glaciers et les montagnes. Et gazeuse dans les nuages et l'atmosphère. Et elle bosse sans relâche. Elle ronge les montagnes, elle creuse les canyons, elle fait des plages, elle déplace du sable. Allô, en quelque sorte, c'est un petit peu l'artiste de la Terre. Elle sculpte, elle peint, elle réalise des œuvres d'art aux quatre coins du monde. C'est une machine à créer des paysages. Et encore une fois, il n'y a que sur Terre que c'est comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment. L'eau, elle érode, elle emporte les matériaux arrachés et elle les dépose ailleurs. Même qu'on lui a pas demandé d'ailleurs. Résultat, les reliefs sont remodelés en permanence. Parfois lentement, parfois brutalement. Par exemple, regardez eux là, ils vont être remodelés bien brutalement là, regardez, et bim. J'espère qu'elle sait nager. Quand il pleut, les gouttes d'eau frappent le sol et elles désagrègent les particules de terre. Si le sol est en pente, l'eau ruisselle et entraîne les particules vers le bas. Et ces ruissellements créent des rigoles et plus tard des ravins vertigineux.
Et donc tu t'es lâché sur l'écriture là.
Attends, c'est pas fini, t'as voir après. Et à long terme, ça contribue à adoucir et à raboter les reliefs.
Raboter.
Oui, raboter, ouais. C'est la première fois que j'utilise ce mot dans une vidéo, et ça me fait un peu bizarre. Tous les cours d'eau sont les plus grands agents d'érosion de la planète. L'eau peut arracher des morceaux de roche par frottement ou par la force du courant. Tous les sédiments comme les graviers, le sable et tout le reste frottent sur le lit de la rivière et l'approfondissent. Ça forme des vallées en V dans les régions montagneuses. Regardez par exemple la Colorado River, comme elle a creusé le Grand Canyon à force de millions d'années d'érosion. Si le courant est trop fort, l'eau peut transporter des gros blocs, tu vois, qui roulent au fond. Et quand la vitesse du courant diminue en plaine ou près de la mer, ça peut former des plaines alluviales, comme ça. Regardez, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est joli, hein, c'est joli. Oui. Ou des deltas aussi, comme le delta du Nil ou celui du Rhône. Les rivières creusent les montagnes, remplissent des bassins, et la faune et la flore se créent autour et vient avec. Prenez le delta de l'Okavango au Botswana, là. Voilà le nombre de bestioles que ça attire. Et c'est pareil avec l'eau de mer. Les vagues, les courants marins et les marées modifient sans cesse les côtes. Prenez la marée de la baie de Fundy, là, au Canada, c'est la plus haute du monde. L'eau monte à presque 15 mètres. Ah bah ça, ça vous change un paysage. Hein. Les vagues frappent les falaises, ça provoque des effondrements et ça creuse des grottes. Moi j'ai grandi à Dieppe, et les falaises entre Dieppe et Puy, j'en ai vu des petits bouts s'effondrer presque chaque année. Les falaises d'Étretat sont mondialement connues pour leur forme. Tout ça a été fait en grande partie à cause ou grâce à l'eau, putain les gars. Je crois que vous rendez pas bien compte. Les courants déplacent les galets et le sable le long des côtes. Ça crée des plages, des lagons. La mer grignote certaines côtes et en construit d'autres. Les paysages littoraux changent tout le temps. Bon, encore une fois, c'est même du temps. Hein. Ça change pas toutes les 24 heures. Tu travailles pas le matin puis c'est complètement différent. Il faut de la patience. Car la patience, c'est la mère du changement, quoi. Et oui, ça aussi, c'est une nouvelle citation de Yann Solo. Car la patience, c'est la mère du changement, quoi. Regardez la dune du Pila en Gironde, en dessous d'Arcachon. Elle est en perpétuel mouvement, elle avance continuellement dans les terres. Et même en souterrain, l'eau continue d'agir. Elle s'infiltre dans les fissures des roches. Elle dissout les roches calcaires. Et ça forme des grottes, des stalactites et des stalagmites. Ça forme des gouffres. On appelle ça des cavités karstiques. Les grottes de Lascaux, la grotte Chauvet, les gorges du Verdon. Ce sont des gorges profondes. Et quand l'eau coule, ça fait...
C'est dégueulasse, merde.
Et là, le prof qui montre la vidéo aux élèves, il a une petite goutte de sueur qui coule dans le dos, là. Achetez bienvenue, ma poule. Ouais, bah la prochaine prochaine fois, tu regarderas la vidéo tout seul avant de la montrer à tout le monde. Et l'eau à l'état solide joue un rôle très important aussi.
Eh ben, ma gueule, faut pas croire.
Y a l'impression qu'on oublie un petit peu vite celle-là. Dans les montagnes, la neige s'accumule et se transforme en glace. Les glaciers peuvent bouger aussi et peuvent lentement glisser vers les vallées en arrachant la roche en dessous. Lentement, mais sûrement. Ça, c'est la phrase qui pourrait résumer toute l'activité de l'eau sur Terre. Lentement, mais sûrement. Ça crée des vallées en U, des bassins en O et des maisons en T. Ça crée des cirques et des lacs glaciaires. Et en fondant, ça dépose des débris. L'eau pénètre dans les fissures, puis gèle, ce qui va augmenter son volume. La roche finit par éclater sous l'action du gel. C'est la cryofracturation. Ah, y'a de l'info, hein, faut suivre. Hein. Et je sais qu'on n'est pas très habitué sur la chaîne, mais de temps en temps, ça fait du bien. Hein.
Comment sais-tu tant de choses?
Ah là là, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est... Vous savez, trop de savoir, pour moi, ça peut être aussi un fardeau. Le savoir est un paradoxe, car plus on acquiert de la connaissance, et plus on se rend compte de l'immensité de son ignorance. En tout cas, tout ça, on ne le voit que chez nous, voilà. Et sur aucune autre planète. Sur Mars, il y avait de l'eau liquide, il y a des centaines de millions d'années, mais elle s'est barrée.
Pourquoi elle s'est barrée?
Bah, elle s'est barrée parce que voilà, il se passait rien, personne s'occupait d'elle. En plus, elle se refroidissait, ça puait de plus en plus au fur et à mesure, donc elle en avait marre, elle est partie. Comme toutes les meufs que j'emmène en date. Alors en fait, on pense qu'il y en a une grande partie qui aurait été piégée dans les minéraux de la croûte martienne et qu'il serait encore aujourd'hui. Et en même temps, ce serait aussi parce que l'atmosphère de Mars est tellement fine que l'eau se serait évaporée et serait partie dans l'espace sous forme de gaz. Et c'est comme ça que les océans ont laissé place au désert. Sur Vénus, encore une fois, bah là, l'eau liquide, c'est carrément impossible, hein, il fait juste 470 degrés. L'atmosphère est tellement épaisse qu'elle retient toute la chaleur. C'est un effet de serre puissance 1000. Et ensuite, tout ce qui est plus loin, là, les lunes glacées, comme Europe ou Encelade, on pense qu'il y a de l'eau liquide, mais bloquée sous une croûte de glace de 100 km d'épaisseur. Donc là-bas non plus, pas de paysages luxuriants, divers et variés, hein, juste de la banquise et du désespoir. Il y a que sur Terre qu'on trouve un cycle de l'eau actif qui sculpte sans arrêt sa surface. Ensuite, il faut aussi parler de l'atmosphère. Une couche de gaz composée principalement d'azote et d'un peu d'oxygène, et puis d'autres petits trucs aussi. Vent, nuages, pluie, tempête, neige, sécheresse, chaleur, chaud, froid.
Jour, nuit.
Tous les phénomènes climatiques changent les reliefs aussi. Quand il pleut, c'est chiant, mais c'est vital. Ça nourrit les sols. Ah, les régions où il pleut jamais, ça ressemble pas du tout aux régions où il pleut tout le temps. Hein. Si l'herbe est si verte en Normandie, que les vaches peuvent brouter de la bonne herbe bien fraîche, faire du bon lait et qu'on puisse avoir des bons camemberts qui coulent et qui puent, c'est parce qu'il fait tout le temps un temps de merde. Ah, je rigole. Un jour, j'irai revoir ma Normandie. Le vent déplace les éléments, les dunes du désert du Sahara changent sans cesse, et quand il y a trop de vent, ça crée carrément des vers de sable énormes. Et le vent transporte carrément les poussières et le sable sur les autres continents. Quand vous voyez cette espèce de sable marron là sur vos bagnoles, là, bah ça c'est le sable du Sahara. C'est pas le Père Noël qui l'a apporté, hein. C'est le vent, mon père. L'atmosphère, c'est aussi ce qui permet à la chaleur de circuler. Résultat, certains endroits gèlent, d'autres brûlent, et entre les deux, bah t'as les Bretons qui savent jamais trop comment ça va se passer pour eux. Du coup, ils boivent pour oublier, et ils oublient d'arrêter. Et c'est toute cette dynamique qui crée des climats variés. Polaires, tropicaux, tempérés, désertiques. Et à chaque climat, c'est un décor différent. C'est pour ça qu'on peut passer de la banquise à la jungle en quelques heures d'avion. Ou même simplement quelques heures de voiture si vous passez de Dunkerque à Marseille. Et maintenant, messieurs dames, pour terminer cette vidéo, le clou du spectacle. La vie elle-même, bien sûr. Depuis 3 milliards et demi d'années, la vie évolue sur Terre en même temps qu'elle fait évoluer la Terre. Les êtres vivants interagissent avec leur planète. Ils en changent l'atmosphère, l'hydrosphère, c'est-à-dire l'ensemble des zones de la planète où il y a de l'eau, et la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre et les roches. Tout le vivant, ce qu'on appelle la biosphère, n'est pas passive. Elle sculpte, construit et détruit les paysages. Les plantes stabilisent le sol grâce à leurs racines. Les forêts de montagne limitent les glissements de terrain, tandis que les mangroves protègent les côtes de l'érosion. En se décomposant, les végétaux et les champignons, et même les animaux, et toute la matière organique, produisent de l'humus. C'est bon une petite tartine de humus, avec un petit peu de saucisson et une petite choufette.
Non mais là tu confonds avec le houmous, là, c'est pas la même chose.
Mais si, c'est la même chose. Le humus, c'est la couche supérieure du sol, qui est une matière souple et aérée qui absorbe et retient l'eau. Et ça crée des sols fertiles, comme la grande forêt amazonienne. Et les animaux, bien sûr, modifient le relief aussi. Les castors construisent des barrages qui transforment les rivières en étangs. Les termites construisent d'immenses termitières qui modèlent les paysages africains. Les vers de terre remuent le sol, ce qui favorise son aération et sa fertilité. Les marmottes, elles mettent le chocolat dans le papier d'alu. Et les écureuils. C'est con d'écureuil. Alors là, il faut en parler. Parce que l'écureuil, les gars, c'est tellement mon animal préféré. Parce que c'est totalement imprévisible. Tu sais, l'écureuil, il est là, comme ça, il fait rien. Et puis d'un seul coup, il se barre à fond, tu sais pas pourquoi. Puis il se fout sur un arbre complètement à l'envers, tu vois, mais pour lui c'est naturel. Et il te regarde comme si t'allais le tuer, complètement parano le truc. En fait, l'écureuil c'est un genre de ninja hyperactif qui vit en permanence des trucs dramatiques hyper intenses. Un écureuil par exemple, ça marche jamais, ça sait même pas que ça peut marcher. S'il voit un arbre à 500 mètres là-bas, il va y aller en 3 secondes, à balle comme un malade. Et puis si ça se trouve, à mi-chemin, il va décider de faire demi-tour. Putain, mais c'est quoi leur problème à eux? Ils sont complètement schizophrènes en fait. Et les écureuils, ils passent leur vie à enterrer des noix et ensuite à oublier où ils ont enterré. Et 20 ans plus tard, ça fait des arbres. Je vous jure, si ça se trouve, la moitié des forêts forêt du monde. C'est juste le résultat d'écureuils qui ont fait du jardinage sans le vouloir. Ils font de la reforestation involontairement.
Qu'est-ce qui se passe?
Et ça, c'est sur Terre, mais en mer, comment ça se passe?
Ah bah c'est pareil.
Dans les mers chaudes, les coraux, ils créent des récifs coralliens qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Ça crée des atolls, comme aux Maldives ou en Polynésie. Ça protège les côtes en absorbant l'énergie des vagues. Ça crée des lagons et des micro-habitats pour d'autres espèces. Ça peut modifier localement le courant et la sédimentation. Et voilà, et je passe sur tous les autres trucs qui se passent parce qu'on n'a plus le temps.
Enfin si, on aura le temps, on a tout le temps qu'on veut, mais c'est moi qui décide qu'on ait plus le temps.
Et enfin, qu'est-ce qui nous reste? Les derniers de la classe, nous, les humains. Ah, je peux te dire que la géologie de la planète, alors nous, ça nous fait pas peur. Hein. Nous, on explose les montagnes pour construire des routes, des tunnels ou des ponts. On crée des barrages pour retenir des fleuves et des rivières, comme l'immense barrage des Trois Gorges en Chine ou alors le Hoover Dam aux États-Unis. On déforeste des régions entières, on assèche des zones humides et on provoque la désertification dans d'autres endroits encore. Avec l'agriculture, l'exploitation minière et les émissions de gaz à effet de serre, on modifie aussi le climat, et donc l'érosion, la fonte des glaces et le niveau des mers.
Hein, tant que ça?
Et bien sûr, mais attends, on est des ouf, nous, qu'est-ce qu'il y a? On a peur de rien, nous! Attends, tu sais que moi, j'ai déjà creusé à la plage un trou de au moins 1 mètre de profondeur. Je mettais mon bras dedans jusqu'à l'épaule, hein.
Titre?
Non, pas là, non.
Non, pas là, non.
Et quand j'étais petit, toi, je me rappelle très bien, je faisais des trous comme ça, et puis j'avais l'impression que j'allais arriver au centre de la Terre. Enfin bref, mes amis, des petites racines des plantes jusqu'aux immenses barrages humains, la vie sous toutes ses formes façonne, détruit et reconstruit sans cesse les paysages terrestres, faisant de notre planète un monde vivant, dynamique et en évolution permanente. La planète Terre, c'est le seul plateau de tournage où les figurants participent à la décoration. Et tout ça, ça fonctionne parce qu'on a un équilibre qui tient quasiment du miracle, une distance parfaite au soleil, ni trop chaud ni trop froid, de l'eau liquide, une atmosphère stable, un champ magnétique qui nous protège des rayons du soleil, une inclinaison qui crée les saisons, une lune qui stabilise notre axe de rotation, une étoile pas trop vénère qui nous laisse tranquille et nous crame pas la tronche, et c'est grâce à tout ça que la planète est vivante. Change un seul de ses paramètres et pouf, tout serait fini. Alors pourquoi la planète a autant de paysages différents? Parce qu'elle vit, bordel! Mais bien sûr, elle profite de la vie! Et ses habitants foutent le bordel partout où ils passent! Ils dynamitent, ils dispersent, ils ventilent, ils éparpillent façon puzzle. Et peut-être qu'ailleurs, quelque part dans la galaxie, existe une autre planète pareille avec le même combo gagnant. Mais alors qu'il est, on l'a toujours pas trouvé, et pourtant, on n'arrête pas de chercher. En attendant, la Terre reste la seule planète à offrir autant de diversité sur un seul petit point bleu pâle. Alors oui, d'accord, des fois on râle sur la météo, la pluie, la canicule ou même les moustiques. Mais quand on compare aux autres planètes, bah ici, c'est vraiment le paradis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Alors, juste avant de vous quitter, je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par un type qui est un peintre digital, spécialisé dans la création de tableaux sur les thèmes du cinéma et de la musique. Alors moi, au départ, bah direct, je lui ai répondu « va te faire foutre ». Sauf que les gars, quand j'ai vu ce qu'il faisait, alors là, ça m'a intéressé. Il reprend des personnages, des portraits ou des affiches de films et il en fait quelque chose de terrible. Je trouve ça absolument sublime. Et bien sûr, il n'utilise aucune IA, il fait tout lui-même. Alors il m'a proposé de m'envoyer un petit tableau hein, pour me rendre compte moi-même de la qualité du truc. Et parmi toutes ses créations, j'étais évidemment obligé de choisir ce qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Si je ne devais emmener qu'un seul tableau sur une île déserte, je prendrais celui-là. Attention. Tada !
Ça, c'est magnifique.
Je crois que je vais chier, mec. Bon, vous les aurez reconnus, hein, c'est Kathleen Evaille de Arkane. Je les ai sur mon t-shirt. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ce tableau-là, il n'y est pas sur son site. Il en avait un autre de Vaille et Kate, mais c'était pas celui-là que je voulais, en fait. Donc, je lui ai demandé de prendre exactement cette image-là. C'est ce plan que je voulais pour en faire un tableau. Je vais m'étais un peu chiant, je lui ai demandé de refaire des petits détails et tout. Et du coup, maintenant, ce tableau est sur le site. Donc, si vous achetez celui-là, eh ben, c'est grâce à moi. Il m'a même envoyé le gros plan aussi sur toile. Ça, c'était un petit cadeau en plus que j'ai même pas demandé, tu vois. C'est vraiment, le gars me connaît bien. Bref, je vous ai mis le lien de son site dans la description. Il y a plein de choix, vous trouverez forcément un truc qui vous plaît, et bah, par exemple, je sais pas, pour un cadeau de Noël, ça peut être super cool. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de cet Ian Solo sur 12 Parsec. Ciao !